La fête du printemps jusqu'à maintenant, c'est toujours moi qui m'en suis occupé. Vous êtes jamais plein, que je sache.
Bah, c'est-à-dire moi...
Cette année, on a décidé de changer un peu le ton.
Mais qu'est-ce que vous voulez changer comme ton? Une fête, c'est une fête.
Là, en l'occurrence, il s'agit de la fête du printemps. On va essayer de coller à la thématique pour une fois.
CO2, mon amour.
Non, mais c'est vrai que le printemps, c'était une notion assez vague quand même.
Qui c'est celui-là?
Je suis désolé, j'ai trouvé que lui.
Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, la fête du printemps?
Faire cramer.
Quoi? Mais vous plaisantez!
Vous me dites qu'il faut quelque chose de festif.
Mais quel rapport avec le printemps?
Ah, le printemps. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs.
Sur France Inter.
Opterez-vous pour un printemps gracieux et fraîche comme l'ondée?
Bonjour à tous et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est au de mon amour qui débute avec le printemps, vous l'avez compris, qui terminera d'ailleurs aussi avec le printemps. Et là, c'était un petit extrait de Kaamelott que vous avez reconnu aujourd'hui à la technique, Raphaël Rousseau. Stéphane Combe nous a accompagnés pour cette émission et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Alors, un beau matin, car dans les contes, tous les matins sont beaux et l'air est léger. Un beau matin, donc, vous n'entendez plus le fluet flutio aigrelet et mélancolique du rouge-gorge, qui tout l'hiver a mis un point d'honneur à fleurir de sa présence la branche givrée du sureau du jardin. Les personnages nivéoles sont déjà fanés et la mésange charbonnière lime avec insistance une clé de serrure sur son étau. Stevie. Ouais, et chez les petits artisans, eh bien, les affaires reprennent. D'ailleurs, le maire l'a déjà maçonné son nid au creux du lierre et madame se fait discrète, oui. En haut des arbres, encore déplumés, le pinson plastronne en cherchant son cousin. Tiens, où est Cyprien? Mais ce n'est vraiment qu'avec les strophes musicales éclatantes et solaires de la fauvette à tête noire que vous pouvez être sûr que le printemps a déposé son barda. Alors cherchez sa dame au béret roux, elle viendra un peu plus tard. Et la salamandre? Eh ben la salamandre, elle étire ses papates, oui, mais oui, pourvu qu'il pleuve sous les narcisses. La grande nouba des bourdons fait le buzz au cœur des dorés des pissenlits, des primevères, et l'hirondelle ne va plus tarder. Il lui faudra, en chassant l'éphémère, voulais-je dire, se garder des bourgeons qui éclatent. Et vous? Ah bah alors là, vous, évidemment, c'est parti, hein. Donc, vos pattes dans les bottes et les sabots, les mains dans les gants, vous gratouillez, vous binez, vous plantez en gentleman farmer ou woman garden, peu importe. Vous embellissez avec des fleurs dont la beauté n'a qu'une fonction, je vous le rappelle. Attirer l'insecte et accessoirement votre regard. Mais par pitié, vous supplie les insectes, ne cherchez pas à faire propre, non! Laissez-nous des bouts de vie un peu sauvages. Bref, frichez-nous la paix. Un petit arbre mort avec des cavités, des écorces, des feuilles décomposées. Ah ben là, vous rendez pas compte, mais c'est le pied ça pour nous. Oui, vous qui savez pondre tous les algorithmes du monde, mais qui restez en mode « j'éclate le vivant et je suis tellement content », eh ben, laissez-nous faire pour le meilleur. Mais, plantez, zonzonne l'abeille, et les mille autres abeilles sauvages pollinisatrices, plantez des mellifères. Un jardin, je vous le rappelle, n'est pas un terrain de foot avec des fleurs. Alors vous me dites printemps, mais c'est qu'on supporterait bien une petite laine. Ouais. La chaleur, faut se la tricoter. Quand du froid va-t-elle prendre la place? Dit la jeune marmotte, avant par l'aigle de se faire becter. Bah oui, c'est comme ça la nature. Saint Mamère, Saint Pancras, Saint Servais, toujours en embuscade. Hein, le fusil à gel en dessous de l'auréole. Eh bah oui, c'est leur boulot. Pas pour rien qu'on les appelle les saints de glace. Le coucou chante à la Saint-Benoît, parce que c'est dans 3 jours, hein. Sauf si il est mort de froid. Et bing, la nature le sait bien, en avril, ne te découvre pas d'un string. Alors une petite ronde de printemps qui va nous emmener donc un peu partout, on va aller dans les marais de brouage, on va partir dans le futur parc national des forêts en Champagne et Bourgogne, on va aller en bord de Garonne, en Guadeloupe et là on va aller en Saint-Trie. Eh oui, Saint-Trie avec un X. Nous sommes dans le très beau département de la Corrèze, donc on est dans le Limousin, rejoindre quelqu'un qui connaît très très bien la nature, qui est aussi le monsieur Nature de France Bleu Limousin. Bonjour Jean-Michel Tellière.
Bonjour Denis Chessoum.
Alors toujours aussi naturaliste, vous êtes toujours le maire de cette commune des Tours de Merle, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, combien d'habitants? Une cinquantaine d'habitants, je crois.
Exactement, un petit peu moins, 45, mais c'est vrai qu'on les compte chaque jour. Vous comprenez que c'est une espèce rare à protéger absolument chez nous.
Absolument, et donc vous avez aussi donc une zone Nature à 2000 chez vous, vous avez une réserve mondiale de biosphère, et alors on est sur les gorges de la Maronne, et ça c'est très intéressant parce qu'en fait, ce printemps, vous l'observez aussi avec ce paysage vertical qui est sous vos yeux.
Exactement, on a cette chance-là. Chez nous, il y a de la déclivité côté de la pente, vous le savez très bien, Denis, parce qu'à quelques occasions, vous avez traîné votre bicyclette sur nos routes incertaines, il y a des travers, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des territoires très vallonnés, très diversifiés. Et puis ces gorges, qui font partie de ces affluents du grand bassin de la rivière Dordogne, toute notre eau qui tombe chez nous descend, plus en aval vers la Dordogne. Donc un paysage très tentu, très verdoyant, où il y a peu de monde, vous l'avez compris, notre ancien feu canton de Mercœur, c'est quelques 1700 habitants pour 9 communes, vous imaginez, donc il y a de la place pour la nature. Il faut le préciser, moi j'ai vraiment aussi un dessein pour ma vallée, une ambition pour ma vallée, c'est de créer sur ce site une réserve naturelle régionale pour pouvoir encore mieux préserver ce patrimoine naturel exceptionnel.
Alors, peut-être que les animaux sont un peu éberlués lorsqu'ils voient de la neige arriver, alors qu'ils ont eu très très chaud avant.
Climat de dingue, exactement, c'est-à-dire qu'on parle souvent improprement du réchauffement climatique, même s'il est avéré, c'est des règlements. Mais la semaine dernière, il y avait de la neige, il neigeait, et très abondamment, même la route était complètement en blanche, on est en haute montagne, on est en moyenne montagne, et imaginez un petit peu l'émotion pour le petit ornithologue qui sommeille en moi, de voir mes petites hirondelles là sur le fil, juste en face de chez moi, qui, de manière traditionnelle, viennent nicher dans la grange. Eh ben, j'ai pensé à elles, hein, franchement, parce que, en effet, c'est du yo-yo. Autant il a fait bien beau quand elles sont arrivées, pas de problème, il y avait de l'insecte un petit peu partout, et là, ça a dû un petit peu les perturber, lorsqu'on sait qu'en plus, ces oiseaux, les hirondelles, se sont complètement effondrées, érodées, les populations au fil des ans, partout auparavant, hein, au pignon des maisons, sous les avant-toits, il y avait des colonies, hein, d'hirondelles de fenêtres. C'est terminé. Il y en a plus une seule sur la commune. Vous imaginez, c'est assez étonnant. L'hirondelle rustique, elle est rare. Celle que j'héberge dans ma grange, je peux vous assurer que j'y fais très attention. On parle de 30% pour l'hirondelle rustique, 80% pour l'hirondelle de fenêtre et les hirondelles de rivage qu'on va croiser du côté d'Argentat sur Dordogne dans les sablières, c'est pareil. On constate des effondrements de population. Donc voilà, ce sont autant de signes pas très rassurants, mais ça on le sait, il faut qu'on arrête de le dire, mais en même temps c'est bien de le rappeler.
Alors c'est bien de le rappeler, quelles sont les causes quand même? On les rappelle aussi.
Allez, on arrête de se cacher derrière son petit doigt, ça aussi, la pédagogie c'est l'art de rabâcher, mais évidemment l'avènement d'une agriculture assez intensive, qui n'est pas celle qui est pratiquée, Dieu soit loué, chez nous, on a vraiment une agriculture extensive,
oui,
avec de la vache qui pâture dans nos prairies vertes, et on s'en réjouit. Mais en même temps, il n'y a pas de raison. Depuis les années 50, 60, 70, on utilise quantité de pesticides. Donc ce sont des petits baromètres que l'on voit, enfin des marqueurs une nouvelle fois, à ces oiseaux. Et si on se dit que c'est pas bon pour des petits organismes de 20 grammes, il n'y a aucune raison que ça soit bon pour nous.
Lorsque je suis un petit moineau friquet, par exemple, est-ce que vous arrivez encore à m'attraper pour me poser une petite bague?
J'aimerais bien, Denis, il y a cela à peine 10 ans et j'ai pas 80 piges. Hein, je capturais couramment du moineau friqué, ce petit moineau rural, hein, pas celui que l'on voit dans les villes, qui était une espèce commune, au même titre que le moineau des villes, et même si celui-ci aussi se casse un peu la figure ici ou là, non, c'est terminé. Je n'ai plus ce plaisir-là lorsque je bague les oiseaux chez moi, c'est une espèce que je ne vois plus, que je n'entends plus, et par voie de conséquence que je ne capture plus, et c'est bien dramatique.
Alors juste avant de se quitter, quand même, Jean-Michel Tellier, vous êtes un homme qui nous avait fait aimer les grues, vous avez été un des premiers, et vous avez toujours cette chance d'être sur ce couloir de migration de ces fameuses grues, qui d'ailleurs peut-être migrent un petit peu moins, hein.
Quand même dans cette, je le regrette franchement, dans cette, ce diagnostic un peu sombre, mais bon, il faut le dire ainsi, la grue cendrée se porte bien, la grue cendrée va bien, et les populations explosent en Europe et en France. C'est un oiseau qui passe sur notre région, on a la chance d'être au milieu de ce couloir migratoire merveilleux, où les limousins encore lèvent le nez, s'arrêtent de travailler, comme je l'ai fait d'ailleurs il y a 2-3 semaines, un mois j'ai vu encore un passage de grue, j'étais dans mon jardin, et je me suis arrêté. Ça permet ça aussi, la grue cendrée. Et en effet, elle est de plus en plus présente chez nous. Peut-être même plus de 100 000 oiseaux désormais qui hivernent en France, alors qu'auparavant, elle allait du côté de l'Espagne.
Un grand merci Jean-Michel Tellier. Et puis à très bientôt.
Merci Denis Chesson, avec plaisir.
Un grand raconteur donc du vivant, Jean-Michel Tellier, avec sa commune, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. Donc nous sommes en Saint-Trie. Et alors dans quelques instants, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous emmener du côté du bord de la Garonne. Nous allons être plutôt dans du printemps urbain, puisqu'on va être à Toulouse. Et puis ensuite, on ira de nouveau. On va faire un petit tour. On partira dans les forêts de Champagne et de Bourgogne.
Cléa Vincent, nuit sans sommeil. Bah, je sais pas, faut qu'elle prenne quoi de mémoire de la valériane, de la passiflore, de la mélie. Je crois que du houblon aussi, ça marche pas mal pour les nuits sans sommeil de façon naturelle. Donc, ces playlists choisies par Thierry Dupin. Par Thierry Dupin. Et là, on va partir à Toulouse, mais auparavant.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons voir la marmotte.
CO2, mon amour.
Oui, j'y vais.
Denis Chessou.
À quand le printemps, à votre avis?
Je le prédis pour le 21 mars.
Ah oui, ça serait chouette.
Sur France Inter.
Cela dit, je crois que c'est justement le premier jour du printemps.
Eh ben oui, premier jour du printemps. Mais là, on est déjà bien entamé. En général, je fais jamais l'émission, si vous voulez, autour du 21 mars, parce que c'est encore extrêmement, extrêmement incertain. Allez, je vous emmène où cela. Nous allons aller en bord de Garonne, donc à Toulouse. Le Bazac est un petit peu plus au nord, donc on va descendre tranquillement. Et on va rejoindre Frédéric Lisac, qui est un formidable naturaliste, édition Plume de Carotte. C'est lui. Et donc, on voit ses berges. Et alors, Toulouse a eu du pot, parce qu'en fait, dans les années 70, comme vous le savez, alors non seulement, évidemment, toutes les villes tournait, c'était très moderne à l'époque, on tournait la vie par rapport au fleuve, maintenant c'est absolument l'inverse. Et dans les années 70, on livrait la ville à la bagnole. Et bien là, faut vraiment saluer les associations de quartier qui ont réussi à éviter cela, donc à Toulouse, et qui fêtent tous les ans au mois de juin cette petite victoire. Allez, le printemps, comment il se décline avec vous, Frédéric Lisac? Ouais.
Hop, on arrive au sommet de la digue. On y est, et là nous avons notre Garonne, et nous avons Frédéric Lisac. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Bon, alors un petit printemps là aussi, petite ronde de printemps avec vous, donc oui. On est chez vous dans cette haute Garonne, elle est encore plus haute évidemment là où elle prend sa source, là elle est déjà belle et ample, et alors ce printemps donc chez vous, ici face à cette Garonne qui reprend un peu de la vigueur d'ailleurs là.
Ah oui, on a eu presque un faux printemps là, on se croyait déjà en été, et puis là il y a juste ce qu'il faut, ouais, pour qu'on y soit, d'eau aussi parce que les plantes commencent à en avoir besoin, et puis là, on le voit, voilà, c'est le printemps, cette espèce de d'émerveillement renouvelé chaque année, moi qui, je sais pas, j'ai peut-être un côté animiste, mais je suis surpris à chaque fois de la vigueur que la nature reprend, c'est toutes ces feuilles là de peupliers. Vous seriez venu il y a 4 jours, elles n'y étaient pas, quoi. Enfin, il y a les herbes qui prennent 20 cm par semaine en ce moment, enfin c'est, mais quelle force, quoi, quelle vie.
Et puis ceux qui sont bien ici, ce sont les oiseaux, parce que évidemment ils remontent cette Garonne.
Et oui, et puis surtout particulièrement ici, parce qu'on est vraiment aux portes de Toulouse, une grande ville. Même dans une grande ville comme Toulouse, un fleuve comme la Garonne a toujours des espaces sauvages, en tout cas suffisamment inaccessibles pour que une certaine faune sauvage, et notamment les oiseaux, soit chez eux. Donc effectivement, tout le long, là, il va y avoir très bientôt, il y en a peut-être même déjà, des pontes de colverts. Il y a des mouettes rieuses aussi qui se baladent pas mal l'hiver principalement. Mais il y en a certaines qui restent ici avec des goélands aussi à la belle saison. Et puis c'est aussi un fleuve... Peut-être particulièrement ici, la Garonne, à Toulouse, parce qu'elle est dans un axe nord-sud, c'est une voie de passage. C'est vraiment pour les migrations de printemps de retour, et aussi pour les migrations d'automne. C'est leur autoroute des vacances, à eux. Ça. Les hirondelles sont arrivées il y a 4-5 jours, j'ai vu les premières. Les martinets, on les attend encore. Chaque année, je les guette, parce que ça fait 10 ans qu'ils arrivent au plus tôt le 9 avril et au plus tard le 14 avril.
Alors un peu plus au nord, donc on a ce pont neuf qui est superbe, avec d'ailleurs aussi avec ces trous qui permettaient aux crues de pouvoir
exactement
passer.
Exactement. Le pont neuf, si vous le regardez, il a une structure complètement dissymétrique. Vous voyez qu'il a des piliers beaucoup plus forts sur la rive gauche pour nous, en fait, qui est la rive extérieure. Ouais. Tout simplement parce que là, Toulouse a été construite dans un grand virage du fleuve, et qu'on sait que le fleuve, quand il pousse, c'est côté extérieur. Et du coup, les architectes de l'époque, il y a quelques siècles, avaient bien saisi ça, et ont fait un pont dissymétrique avec des piliers beaucoup plus solides sur le côté extérieur où le fleuve pousse plus. C'est aussi ce côté où il y a les grandes digues, alors que sur l'autre berge, vous avez la prairie des filtres,
qui, comme son nom l'indique, filtre l'eau.
Avec le château d'eau, d'ailleurs, en aval. On récupérait l'eau qui avait été filtrée naturellement dans la prairie des filtres, donc dans le bras intérieur du fleuve, qui est un amas de galets, de sable, ramené par la Garonne depuis les Pyrénées, depuis des millénaires.
Des graves.
Et qui fait que l'eau était filtrée naturellement, et on pouvait avoir une eau potable, on va dire, à l'époque, grâce à cette prairie des filtres.
Alors là, on est descendu, donc on n'est plus sur la rive, là. Bon, le castor, on n'en a pas ici.
Non,
c'est pas comme à Lyon. Lyon, ils ont du castor.
Oui, mais... le castor n'est pas encore arrivé là. On désespère pas, parce qu'il gagne quelques dizaines de kilomètres par an depuis pas mal de temps, mais il occupe pas la Garonne. Il est pas très loin, mais sur d'autres versants, parce qu'il a remonté évidemment toutes les rivières depuis le Rhône, et on le trouve maintenant en Lozère, on le trouve aux portes de l'Hérault, on le trouve dans le Gard, mais il a pas franchi le seuil de Naurouze. Il est pas passé effectivement dans le bassin de la Garonne, mais au sud de Toulouse, le long de la Garonne, vous avez des ramiers encore extraordinaires, pas très loin, à 5 km d'ici, aux portes à Blagnac. Vous avez des endroits, des réserves naturelles où il y a vraiment des bras morts, tout ce qu'on appelle les ramiers, même des anciennes carrières qui ont été abandonnées puis qui sont retournées à la nature, qui seraient des biotopes tout à fait favorables au castor ou même à la loutre.
Ce qu'on appelle les ramiers, donc.
Les ramiers, en fait, ce sont des zones inondables. La Garonne, arrivant ici, elle est quand même dans la plaine depuis pas mal de dizaines de kilomètres. Donc son courant et son rythme est beaucoup plus lent, ce qui fait qu'elle prend des grands virages amples. Et très souvent, ces virages, alors là je vous parle à des échelles pas tout à fait géologiques, mais enfin de plusieurs centaines d'années, voire de milliers, des bras morts se ferment, mais peuvent rester inondables une ou deux fois dans l'année, ou même exceptionnellement plusieurs années. Et ça reste des zones non cultivables, donc déjà effectivement on peut pas ni cultiver ni construire, et du coup il y a une flore mais tropicale, enfin évidemment c'est pas le climat, mais en abondance de végétation qui s'y développe, avec des zones plus ou moins marécageuses, asséchées parfois, humides à d'autres moments, qui fait qu'il y a une faune et une flore absolument exceptionnelles qui se développent. Ça crée ce qu'on appelle les corridors verts, et c'est principalement dans ces anciens bras morts du fleuve.
Alors, le printemps, on va dire, intime de Frédéric Lysaque, éditeur, qui a trouvé quand même ce titre génial pour ses éditions, hein, Plume de Carotte, c'est une merveille totale. Voilà, non mais ça vient aussi quand même de l'observation et peut-être aussi du printemps. Alors, vous, c'est quoi? Comment ça se caractérise?
C'est une espèce de d'euphorie. Vraiment, enfin, qui me prend des matins quand je me lève, alors là, c'était il y a déjà quelques semaines, et que je vois la première fleur d'amandier, par exemple. Alors, on n'est pas sur des plantes sauvages, là je vous parle de mon jardin, mais qui est quand même un symbole absolu. C'est, il fait peut-être encore froid, il fait gris, il fait nuit le matin et tout ça, mais ça y est, l'amandier fleurit. Il y a vraiment une espèce de joie de voir cette force de vie qui ressurgit à chaque fois. Et c'est d'autant plus important que je pense que on oublie de regarder. Alors que, au-delà de l'utilité de la nature, c'est aussi ce plaisir. Voilà, il n'y a pas d'autre mot qu'elle peut nous apporter. Et le printemps est quand même un moment particulièrement privilégié pour ça.
Petite balade donc en bord de Garonne avec Frédéric Lysaque, et donc aux éditions Plume de Carotte, il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Occitanie, miroir du monde. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Vous avez donc 120 lieux assez exceptionnels dans ces 13 départements, mais qui ont été mis, j'ai presque dire, en profonde filiation avec d'autres endroits ailleurs dans le monde. Ce qui fait qu'on peut imaginer le lac Titicaca dans les Pyrénées-Orientales, une lande polonaise dans l'Hérault, donc voilà, donc c'est un peu le principe, et c'est très bien fait. Alors, après le Limousin, après Toulouse, remontons un petit peu. Oh, on a besoin d'arbres. Oh, on a besoin de forêts même. On va aller dans le futur parc national de forêts en Champagne et Bourgogne. Et on va rejoindre, nous sommes dans la Haute-Marne, nous allons rejoindre Émilie Weber. Bonjour Émilie.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes chargée d'études scientifiques au Conservatoire botanique national du bassin parisien. Et alors nous sommes en fait entre Langres et Auberive. Je sais que ce matin c'était frais, hein. C'était du moins 5 degrés quand même, voilà. Et on est en fait dans le futur parc national de forêts en Champagne et Bourgogne. Alors c'est une très très belle forêt de feuillus. Donc ce parc national n'existe pas encore, mais la préfiguration elle est vraiment là. Donc comment se passe le printemps là chez vous?
Donc le printemps est déjà bien installé dans notre belle forêt du plateau de Langres. On observe surtout une floraison spectaculaire des premières fleurs vernales dans la forêt.
Alors ce qu'on appelle les fleurs vernales, racontez-nous.
Alors ce sont les toutes premières fleurs qui apparaissent au sortir de l'hiver. Avec donc en premier, la première qui rentre en piste, c'est la nivéole printanière, dès la fin du mois de février. Suivi de prime vert et d'anémone Sylvie. Et donc en fait, toute cette floraison est particulièrement exubérante dans les forêts à caractère ancien. Et pour nous, botanistes, c'est vraiment le marqueur de l'arrivée du printemps, dans la mesure où ces fleurs se dépêchent d'accomplir leur cycle de vie avant la feuillaison des arbres.
Alors que lorsque l'on parle de forêt à caractère ancien, ça veut dire que là, dans ce massif incroyable, hein, 8500 donc, hectares, donc c'est une très belle forêt domaniale, et puis dedans, vous avez 3000 hectares qui vont correspondre à la future réserve intégrale, on va y revenir, mais ça veut dire qu'il y a une symbiose, une association entre à la fois les arbres, les mousses, évidemment les champignons, l'humus et les fleurs. Tout le monde y trouve son compte.
Le site qui a été désigné pour faire office de future réserve intégrale du cœur de parc national est une forêt qui est assez exceptionnelle de par son étendue et sa compacité et qui présente un état boisé ancien depuis plusieurs siècles. Ce qui fait qu'il y a effectivement tous les compartiments végétaux et animaux qui peuvent s'exprimer et la présence d'arbres matures qui en fait tout son intérêt.
Donc, quand on parle d'arbres matures, on est quoi? 100, 150 ans, peut-être 200 ans?
Voilà, il faut penser effectivement qu'un arbre atteint sa maturité au bout de minimum un siècle.
Oui.
Et bien sûr, peut vivre plusieurs siècles.
Là, on a beaucoup de hêtres, de faillards, hein, c'est cela?
Effectivement, la potentialité écologique, c'est la hêtraie sur ce plateau. Et on a des peuplements qui sont dominés par le hêtre et parfois accompagnés de chênes avec un sous-étage assez dense de charme. D'ailleurs, depuis deux jours, ce qui est remarquable, c'est que le charme a commencé son débourrement et on a les jeunes feuilles qui commencent à poindre, ce qui donne une ambiance vert tendre à tout l'ensemble du massif forestier, en plus du sous-bois qui est particulièrement fleuri.
Alors, Émilie Weber, il y a un léger souci quand même, parce que évidemment, c'est géré par l'ONF et avec vraiment des forestiers qui aiment vraiment leur coin, qui s'intéressent à la biodiversité, mais on leur demande quand même de sortir du bois. Bon, c'est le principe aussi de n'importe quelle forêt, hein. Une forêt doit être entretenue, donc c'est pas forcément un crime. Mais, dans cette future réserve intégrale, donc qui fait partie de l'ensemble de ce futur parc, il est fortement question de retirer quand même un certain nombre d'arbres de gros diamètre, alors que ils peuvent avoir une fonction à l'avenir.
Oui, alors il faut savoir qu'une réserve intégrale, c'est une forêt dans laquelle on décide de laisser la forêt évoluer librement, sans exploitation. Donc il y a une petite incohérence dans le fait de continuer à exploiter jusqu'à la dernière minute cette forêt, avant de justement la mettre sous cloche, puisque finalement ce projet de parc national repose sur la constitution de cette réserve intégrale, qui doit être d'une part un sanctuaire pour la biodiversité végétale et animale, et d'autre part être un laboratoire d'études pour les scientifiques pour qu'ils puissent un peu mieux connaître les cycles d'évolution naturelle d'une forêt, les processus dynamiques. Donc retirer les vieux arbres, ça veut dire quelque part hypothéquer la connaissance de ce stade ancien.
Alors Émilie Weber, donc l'ONF avait aussi négocié un dédommagement auprès du ministère de l'Environnement. Je crois que c'était de l'ordre de 10 millions. Ils ont déjà touché 2 millions et demi. Donc justement, peut-être pour ne pas toucher à ces arbres et en fait, ils auront peut-être les deux.
D'un point de vue scientifique, on peut juste regretter que l'État ne soit pas en mesure d'assurer ce volet de ses engagements et ne soit pas à même de faire passer l'écologie avant l'économie, alors, y compris dans un site amené à devenir une réserve.
Oui, donc on va saluer le travail de Nature Haute-Marne hein, qui nous avait alerté un petit peu sur ce sujet. Émilie Weber, est-ce qu'il y a un végétal, une plante, un arbre ou un animal qui vous regarde, qui nous regarde, mais que l'on ne voit pas?
En face de moi, il y a une petite touffe de violette des bois qui vient tout juste d'éclore et qui diffuse une belle couleur violette au milieu du parterre blanc d'anémone Sylvie. Donc voilà, c'est ça qui m'émerveille, juste sous mes pieds.
Grand merci Émilie Weber, à très bientôt, merci à vous.
Au revoir Denis.
Et merci donc pour cette violette donc de Haute-Marne. À suivre dans quelques instants, je vous emmène où? En reportage dans les fabuleux marais de Brouage. Et puis, aussi en Guadeloupe.
Printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, oh printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Voir tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, oh printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeau d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baiser qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps.
Ah bah, si, j'ai pas voulu les annoncer quand même. Ben non, vous l'avez reconnu. France Inter, c'est au de mon amour. Et direction quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouh, il y a déjà un petit peu des embruns, mais auparavant.
Monsieur, je vois, s'intéresse à notre collection de printemps. Nous avons des petites choses charmantes.
C'est au de mon amour.
Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Denis Chessou. Bon. Sur France Inter.
Je vois que vous êtes raisonnable, je vous laisse.
Ah bah non, on se calme. Là, on se calme parce que d'autant que pas très loin là. Vous imaginez, on a l'île de Léron, on a Rochefort qui est pas loin, donc ça veut dire qu'on est en Charente-Maritime.
Arrivé sur le Marais. Sur le Marais de Brouage. Bonjour Jean-Marie Gilardot.
Bonjour Denis.
Alors, on s'est posé tranquillement. Là, on n'est pas encore complètement entre chien et loup. Il faudrait peut-être plutôt dire ici entre triton et grenouille. Hein. C'est un peu ça.
Tout à fait.
Parce que la grenouille est quand même assez emblématique ici.
Ah, totalement emblématique. Hein. C'était un animal qui était très présent dans le Marais et qui, notamment à cette saison, nous gratifiait de concerts exceptionnels.
Ça dit, elle y va bien là, on l'entend encore, mais donc il y a eu quoi? C'était pesticides, c'était curage des peut-être un peu accéléré des canaux, c'était quoi?
Je pense que c'est l'addition de diverses causes. Il y a eu effectivement des phénomènes de pollution, mais qui ne sont pas très importants dans ce secteur géographique. Je pense aussi que les fossés se sont appauvris en herbiers qui constituaient leur biotope naturel, et puis elles ont été victimes de prédations de la part de hérons, de cigognes, etc.
C'était un superbe coucher de soleil donc sur ce Marais de Brouage avec Jean-Marie Gilardot, donc Charente-Maritime. Je vous l'ai dit, hein, donc Léron n'est pas loin, donc Rochefort aussi. Et donc, bah, ces Marais de Brouage, d'abord, c'est la notoriété, c'est quand même Brouage. Alors Brouage, si vous voulez, c'est une étoile de pierre qui a été oubliée par l'océan, parce que c'était un très haut lieu du sel marin. Et puis il y a eu la concurrence, bah oui, avec le sel gemme. Alors il n'y avait plus de sel. Et puis après, ils sont repartis sur du commerce. Et après, ça s'est envasé dans l'oubli. Alors c'est aussi quand même la cité de Samuel de Champlain, grand navigateur, qui est parti au début du XVIIe siècle, la remontée de Saint-Laurent, et est allé fonder la ville de Québec. Bon, alors après, évidemment, dans les dommages collatéraux, il nous a ramené des chanteuses. Bon, bah, c'est comme ça. Et alors, Jean-Marie Gilardot donc s'occupe de ce mari. Il est le président de l'association syndicale des Marais de Saint-Aignan et de Saint-Jean-d'Angle. On découvre le printemps avec lui.
Alors le printemps ici, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est la mise à l'herbe des animaux, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on reconnaît l'arrivée du printemps, c'est que l'herbe pousse alors très tôt, et donc les troupeaux viennent, et viennent comme en montagne, puisqu'il s'agit d'estive. Il n'y a pas de bâtiment d'exploitation sur le territoire du Marais, donc les éleveurs amènent leurs animaux en transhumance dès que l'herbe est suffisamment poussée.
La transhumance horizontale.
Tout à fait. Ça permet la production d'une viande de grande qualité, parce que même même si elle n'a pas toute l'appellation bio, de fait elle l'est, en ce sens qu'on est dans un territoire où il n'y a pas d'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires.
Ni de soja OGM.
Il y a encore moins de soja OGM.
Moi, la première chose qui me touche, c'est qu'il y a un regard qui va loin, et en même temps, on se rend compte que le marais, il faut s'approcher du plus petit. Et si on s'en tient au regard lointain, on passe à côté du minuscule, et il y en a partout dans le minuscule, au niveau de l'eau, au niveau des insectes, au niveau d'un oiseau qui se rapproche. On sent qu'il y a le travail de l'homme, mais que la nature a son dernier mot dans la touche finale de la beauté.
Et si on regarde le ciel, quand même, le printemps, ce sont nos oiseaux. Et là, on va quand même parler de celui qui est assez emblématique, parce que depuis 78, maintenant, donc vous avez des cigognes. Et c'est pas rien, parce que pratiquement la moitié, on va dire, des cigognes de France, elles viennent de là.
Oui, on en voit, il suffit d'avoir un coup d'œil périphérique pour en voir un petit peu partout. Alors elles aussi sont signes de printemps, elles arrivent un petit peu plus tôt, elles arrivent fin janvier, début février, pour installer leur nid.
Elles viennent et là, de Turquie, d'Espagne, de
voilà, elles ont migré, alors Espagne, Turquie et Tunisie. Et donc, là, en ce moment, elles sont en train de pondre et de commencer de couver pour certaines. On a énormément de canards également qui sont présents sur le site et qui, eux aussi, sont en train de faire leur nid, alors qu'on voit moins, puisqu'ils font leur nid au sol sur la berge des canaux et des fossés. Et on a également des colonies de cygnes extrêmement importantes, qui, elles aussi, font des nids et ont énormément de petits, au point que c'est une espèce qui commence à être considérée comme invasive. Son développement se fait au détriment des autres, puisqu'elle colonise des territoires et elle ne supporte pas bien la présence, notamment des canards que l'on évoquait tout à l'heure.
Quand on parle de canard, là, est-ce qu'on est en plein festival de Cannes? Je veux dire que c'est la reproduction, c'est quoi?
Exactement, on est en plein festival de Cannes. D'ailleurs, pour la plupart des oiseaux, on est en période de copulation intense.
Oui, donc c'est un marais, mais c'est aussi un lupanard extraordinaire.
Ah oui, tout à fait. Quand on y regarde de près, ça copule sec, si j'ose dire, alors que nous sommes dans une zone humide.
Alors Jean-Marie Gilardeau, quand même ce territoire, faut en parler aussi maintenant un petit peu différemment, parce que il a quand même été gentiment façonné donc par les hommes, et vous êtes parti vous sur un contrat territorial de marais, et ça c'est drôlement bien parce que ça permet de réunir aussi bien des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs, différents utilisateurs qui ont quand même cette notion du bien commun. Et ce bien commun, c'est quand même ce marais, qui apporte mais alors des bienfaits écologiques incroyables.
D'abord, il n'est pas naturel, hein, puisqu'il a été construit tel qu'on le connaît aujourd'hui il y a 2 siècles. C'était un marécage à l'époque, qui a été assaini par la construction d'un réseau dense de canaux et fossés qui sert à la fois à le drainer l'hiver lorsqu'il y a un excédent d'eau et à l'irriguer l'été lorsqu'il y a pénurie d'eau. Marais qui évite qu'il y ait des inondations, puisque l'ensemble des eaux pluviales des villages alentours terminent leur course dans le marais et donc évitent qu'il y ait des problèmes ailleurs. Et de la même manière, les marais luttent contre les submersions marines parce qu'ils sont une zone d'expansion des crues. Lorsque Xynthia a fait les ravages que l'on sait, la vague est venue jusqu'au pied de Brouage, mais les dégâts ont été dérisoires puisque c'est étalé sur ces marais. Alors c'est vrai que c'était une époque où il n'y avait ni animaux ni hommes, donc ça facilitait les choses, mais ils ont effectivement cette vertu et ces eaux qu'ils reçoivent, ils permettent effectivement leur épuration en ce que l'eau s'y écoule très lentement vers la mer et donc les éléments polluants qu'elles peuvent porter se déposent dans le marais.
Je crois que la rencontre avec le marais, c'était aussi pouvoir se retirer dans ce qui nous appartient de plus personnel et de plus intime. Quoi. C'est un espace qui est vaste et en même temps qui est très étroit et où on sent bien. Quoi.
Jean-Marie Gilardeau, on évoque très souvent les oiseaux quand on parle du printemps, les différents animaux, la végétation, mais il y a aussi, dans ces canaux, il y a des anguilles. Alors elles ont fait le grand voyage depuis la mer des Sargasses, toutes petites, elles arrivent, elles sont pibales, et puis là, elles trouvent un très joli terrain d'expression.
Où elles étaient là aussi il y a une cinquantaine d'années, extrêmement abondante, au point d'ailleurs que c'était une des activités économiques du marais, que de pêcher les anguilles et de les vendre. Et elles trouvent effectivement des conditions extrêmement propices à leur développement, hein, puisqu'elles arrivent minuscules, l'équivalent d'un pion de fourchette. Et la première année, elles gagnent jusqu'à une dizaine de centimètres, puis elles continuent pendant 3-4 ans de grossir, elles engraissent, et ensuite, elles font ce qu'on appelle la dévalaison, c'est-à-dire qu'elles repartent en général à l'automne vers la mer des Sargasses pour se reproduire, et le cycle continue. Alors l'important, c'est de faire en sorte qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles à l'entrée dans ce marais, donc nous sommes amenés en ce moment à équiper les ouvrages de systèmes qui permettent le franchissement par ces anguilles, et on espère bien que d'ici quelques années, elles seront redevenues ce qu'elles étaient, c'est-à-dire, on a évoqué tout à l'heure la grenouille, mais l'anguille était également extrêmement emblématique, peut-être même encore plus que la grenouille.
Alors Jean-Marie Gilardeau, là à côté de nos vaches qui sont un peu rapprochées, parce qu'elles sont pour farouches celles-là, ouais. Et ben, on a quand même nos hérons garde-bœufs, et là on a un bel exemple, comme on dit, vertueux de biodiversité, ça fonctionne bien, parce que nos hérons garde-bœufs, ben, ils adorent fouiller donc la bouse de ces vaches, et puis ils adorent aussi être sur ces vaches.
Les garde-bœufs se délectent des insectes qu'il voilà. peut y avoir sur le dos et le corps des vaches. Et en même temps, les vaches sont ravies parce que ça les débarrasse de parasites. Il y a une alliance objective entre les deux qui fait que chacun y trouve son compte.
Et puis, il y a aussi les hommes qui l'ont bâti. Il y a un peu comme une âme qui vit dans ce marais de toutes ces générations qui ont contribué à... Enfin, moi, je suis toujours aussi émerveillé de voir que l'homme, un jour, a pris sa pelle, là, et puis a commencé à creuser. Enfin, c'est titanesque comme boulot, et voilà, je suis émerveillé toujours de ce qu'on a pu faire comme ça à l'époque. Voilà, ils y sont allés, quand on voit la superficie qu'il y a, ça me dépasse, quoi.
Alors vous, Jean-Marie Gilardeau, c'est vrai que vous avez été un peu une cheville très très ouvrière, si je veux dire, de ce contrat donc territorial des marais. Les hommes autour de la table, au départ, ça a dû se frotter un peu, parce que chacun travaille un peu en silo, regarde ses propres intérêts. Et là, il y a quand même eu ce marais, il y a eu une appartenance à ce marais.
Il a fallu d'abord convaincre les locaux, et les locaux, deux catégories de locaux, hein, les élus locaux, c'est-à-dire les communautés de communes et d'agglomérations, puisque le marais est à cheval sur les territoires d'une communauté de communes, celle du bassin de Marennes, et une communauté d'agglomération. Agglomération, celle de Rochefort-Océan. Et on a aujourd'hui une quasi-unanimité entre les éleveurs qu'on a évoqués, mais aussi les ostriculteurs, les chasseurs, les défenseurs de la nature, les pêcheurs, pour faire cause commune. Mais en même temps, c'est un milieu qui permet de faire fonctionner l'esprit, c'est-à-dire de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, les habitants du Marais sont façonnés par ce marais, sachant que les choses ont extrêmement évolué de ce point de vue-là, puisqu'on avait quasi honte à une époque d'être originaire du marais, et qu'aujourd'hui, on aurait presque tendance à en ressentir une certaine fierté.
Et là, on est derrière le paravent des phragmites de l'année dernière, avec les pousses, les nouvelles, qui vont goûter le soleil du jour. Alors ce milieu est très riche là, donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va y trouver?
Alors on va y trouver notamment des oiseaux qui vont venir nidifier. Alors comme ici au bord des fossés, on va avoir de la fauvette par exemple, et dans les roselières un peu plus denses, parce que là c'est pas suffisamment dense, on a du busard, des roseaux comme on l'indique.
Jean-Marie, quelle est la langue du marais? Vous qui êtes un gamin du marais, hein, donc...
Alors oui, il y a effectivement une... on va dire une spécificité maraîchine qui est faite d'abord d'émotions. Le marais, c'est lorsqu'on est gamin, des couleurs, des odeurs, des bruits. Et tout ça, lorsque j'étais enfant, moi, j'adorais aller le soir sur le bord d'un fossé et puis écouter les cris des oiseaux et le vol des oiseaux, le sifflement des ailes des canards. Et là, l'émotion monte tout d'un coup avec le fameux frisson dans le dos ou la chair de poule qui vient.
Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est la notion de silence qu'il y a dans le marais quand on prend le temps de venir à l'aube. Quand tout est en train de s'éclairer, de s'ouvrir, de... Enfin, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, quoi.
Et cette femme, je ne vous l'ai pas présentée, hein, c'est Blandine Vernier qui a une plume extrêmement poétique et qui est venue donc ponctuer ces jolies phrases au milieu de ce reportage donc avec Jean-Marie Gilardeau, donc dans ces grands marais de brouage, colorisé par Jérôme Boulet et donc mixé par Julien Chabassu. Alors on a parlé de ce contrat territorial, donc il y a eu l'initiative des communautés de communes, mais après il faut quand même juste dire, parce que c'est extrêmement important, qu'il y a le soutien fort du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, avec Alain Rousset en tête qui a été absolument convaincu, le conseil départemental aussi de Charente-Maritime avec Dominique Bussereau, et puis l'agence de l'eau Adour-Garonne. Voilà, donc sans ces trois-là, bah, ça fonctionnerait pas donc non plus. Et c'est vraiment un très très bel exemple, avec au départ des tiraillements un peu dans tous les sens, et d'une réussite et qui va donc continuer. Ah, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire 6000 km. Il doit être 6 heures. Oui, 14h46 doit être donc 6 heures de moins. Et on va rejoindre Béatrice Ibéné, qui est vétérinaire en Guadeloupe et membre de l'ASPAS. Bonjour Béatrice.
Bonjour Denis.
Alors Béatrice, dites-nous, parce que lorsque l'on parle chez vous dans les Caraïbes de printemps, on se doute bien que c'est pas exactement le même, les saisons sont pas aussi marquées.
Non, pas du tout. En fait, on a deux extrêmes saisonniers tout de même, hein. Le carême, qui est centré sur février, qui est une saison sèche, très sèche, et plutôt fraîche. Et puis on a l'hivernage, qui est centré sur octobre, et qui est une saison humide et chaude, très chaude. Évidemment, entre ces extrêmes saisonniers, on a des périodes un peu de transition. Et voilà, donc là, nous, on est plutôt en plein milieu du carême.
Et donc, en ce 13 avril, qu'est-ce que l'on a sous les yeux? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est en fleurs, en mouvement?
Alors, en fait, en période sèche, comme on l'est actuellement, alors surtout sur la Guadeloupe sèche, parce que en réalité, il y a deux Guadeloupes, hein, grosso modo. Il y a une Guadeloupe sèche qui est constituée de l'île de la Grande Terre, des îles, des îlets. Et puis, il y a une Guadeloupe hyper humide sur le massif montagneux de la Basse Terre, qui est quand même hyper humide, donc qui, lui, ne voit pas vraiment de période sèche.
Ce sont les deux ailes de papillon, hein, et donc on rappelle que sur Basse Terre, eh bien, on a la Soufrière.
Tout à fait, avec une forêt dense, humide, très humide. Hein. Il pleut au pied de la Soufrière jusqu'à 10 000 mm par année, alors que sur la Grande Terre et les îles et îlets, on est à moins de 1500 mm par an. Donc il y a également une grande inégalité régionale, on va dire, de la pluviométrie. Donc les naturalistes aiment bien quand même la période sèche, parce que sur la Guadeloupe sèche, on va pouvoir observer beaucoup plus facilement les oiseaux, puisqu'on a les arbres qui perdent leurs feuilles sur la Guadeloupe et sur Marie-Galante, les Saintes, la Désirade. Et donc les oiseaux sont plus facilement observables. On a aussi le pic de la Guadeloupe, hein, qui est une espèce d'oiseau endémique. Mmh. C'est même notre dernière espèce d'oiseau endémique, puisqu'on a perdu toutes les autres par la chasse effrénée.
Ils font pas dans la modération les chasseurs non plus. Chez nous non plus, hein. Vous voyez, en métropole, on ne peut pas dire.
Mais déjà ça au début de la colonisation européenne, et malheureusement ça ne change pas beaucoup. Ah ouais. On n'a pas trop tiré les leçons du passé. On a perdu plusieurs espèces de psittacidés, hein, perroquets, haras, perruches, qui étaient endémiques, car elles sont trop chassées. Et donc je disais, le pic de la Guadeloupe, alors lui il n'est pas très chassé, parce qu'en fait c'est un pic, ça se mange pas, il est noir, donc ça n'attire pas trop les convoitises. Et là on est en pleine saison des amours. Alors c'est particulier parce que en fait on a des couples qui vivent ensemble toute l'année, au moins une dizaine d'années,
d'après
les bagages qu'on a pu faire, alors c'est quand même pas mal.
Ouais.
Et là donc en tout cas on est en pleine saison des amours, donc le mâle séduit à nouveau la femelle, parce que bien qu'ils restent ensemble tout le temps, ben, il faut toujours une séduction renouvelée
toujours.
Chaque année. Hein.
C'est son job, faut le rappeler aussi aux humains ça, oui bien sûr.
On peut observer déjà des petits à l'envol, hein, pour les couples qui ont été les plus pressés. Et puis on peut observer donc les périodes de nourrissage, etc. Donc c'est une période qu'on aime bien pour ça. Alors sinon, côté oiseau toujours, on a le départ de la majorité des migrateurs hivernants, puisqu'on a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent ici pour leur mauvaise saison. Mais on a l'arrivée là qui va commencer des sternes et des oiseaux marins qui viennent au contraire, eux, nicher à cette période.
Béatrice Ibéné, lorsque l'on parle des iguanes, est-ce que là aussi c'est une période d'activité ou...
Alors c'est une période difficile parce qu'en période sèche, surtout qu'on a des carèmes très secs, ben, les iguanes ont beaucoup de mal à trouver, enfin surtout l'iguane des petites Antilles, on ne va pas parler de l'iguane commun qui est l'espèce invasive qui malheureusement ben, là, fait disparaître l'iguane des petites Antilles, endémique des petites Antilles. Mais actuellement ben, les îlets sont très secs et donc on a eu lors de carèmes très très secs une très grosse mortalité d'ailleurs d'iguane des petites Antilles. Donc pour lui c'est pas la meilleure période. Alors on a aussi des petits reptiles terrestres, hein, notamment les cinques, une espèce endémique également et qui est en grand danger d'extinction, qu'on peut observer dans la litière très épaisse, puisque forcément à cette période, comme les arbres des zones sèches perdent leurs feuilles, on a des litières très épaisses. Et donc là, par contre, c'est très intéressant pour les petits reptiles terrestre, en fait.
Eh bien, un grand merci à vous, Béatrice Ibéné, de nous avoir fait vivre ce printemps, donc chez vous à la Guadeloupe. Puis, ben, on vous souhaite le meilleur. Quelle température vous avez ?
Oh, ben là, les températures sont très chaudes. On est à 28-30. Il a fait vraiment très chaud d'un coup, alors qu'il y a encore trois semaines, le matin, on était plutôt à 22-23 degrés, ce qui est très frais chez nous avec l'humidité.
Oui, étant donné que chez nous, le matin, ça doit être dans la partie nord, ça doit être autour de moins 4-5. C'est formidable. Ah. Merci beaucoup. À très bientôt, Béatrice.
Merci, Denis. À bientôt. Au revoir.
Et puis, on peut saluer aussi donc le Terra Festival, oui, là, qui est cavalier en ce moment, donc qui s'occupe aussi d'environnement au sein de la Guadeloupe, donc ce fameux Terra Festival. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah, bah, attendez, j'ai sous le coude une petite. Une île Dieu. Ah ouais, bah juste après cette chanson.
If a man has money today, people don't care if he has concombre. If a man has money today, people don't care if he has concombre. He can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. A man with money walks into the store. The boss will shake his hand at the door. Carlton lads to take down anything. Whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. So if a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. Commit murder and get off free. Rise to the seat of the presidency. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you.
Très bien ça. Leila Makkala, Money is King. Bah oui, ce serait l'environnement qui serait roi. On le saurait donc depuis longtemps. Alors, donc en podcast, vous le savez aussi sur Twitter. Hein, vous avez des informations sur le Twitter chez Sou, tout simplement. Et avant d'aller sur l'île Dieu...
Alors monsieur, qu'est-ce qui vous amène ?
Le printemps ?
Écoutez, monsieur, je comprends pas, expliquez-vous.
On est là pour ça.
C'est vraiment incorrigible.
De jour comme de nuit.
Même le dimanche.
CO2, mon amour.
Monsieur, c'est une affreuse méprise, c'est une dénonciation, il y a des gens qui m'en veulent.
Sur France Inter.
Vous aviez peut-être raison.
Le printemps,
les premiers beaux jours.
Et ben voilà, et là on sent les embruns et on sent un Christophe Coy qui est peut-être sur une dune, sur l'île Dieu, le directeur de Sistude Nature. Donc là nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, naturaliste assez génial. Bonjour Christophe.
Bonjour Denis.
Alors là, racontez-nous votre printemps à vous.
Là, je suis sur la dune, en face de l'île de Douarnmoutier, sur l'île Dieu. Les traquets moteux font un festival, les plantes sortent, le poireau sauvage s'exprime, bref, la dune. Et quand on descend un peu plus bas, sur l'île de Léron et surtout sur la dune Aquitaine, la dune, c'est l'ultime frontière entre le terrestre et le maritime, et là, c'est le territoire de notre iguane à nous. Le lézard osselet, et ce lézard osselet, il est menacé, non pas par l'agriculture intensive, quoique plus haut dans Dordogne, en Lot-et-Garonne et dans le sud de la France, mais là par le risque du changement climatique et notamment par la submersion maritime.
Alors heureusement quand même dans ce coin, la Christophe Coïque sur l'Île-Dieu, c'est vrai qu'il y a de l'urbanisation, certes, ça c'est absolument incontestable, mais il y a aussi une démarche agricole qui permet quand même de rouvrir les parcelles.
Ouais, il y a une super démarche agricole parce que l'île était, bah, comme pas mal de territoires, ça a été un abandon de l'agriculture extensive. Et puis là, il y a un mouvement de jeunes agriculteurs bio qui est en train de rouvrir la lande et de récupérer petit à petit de la parcelle et notamment du milieu ouvert qui est favorable, bien entendu, à tout un cortège d'espèces faunistiques ou floristiques.
Et alors, nos chers goélands, Christophe Coïc, que deviennent-ils là?
Les goélands, là c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté sur la côte sauvage, et les goélands, ils vont entamer leur reproduction. Alors par pitié, chers touristes, prenez les sentiers, ne marchez pas sur la côte sauvage, prenez les sentiers balisés, parce que le goéland il niche à terre, et le goéland il est très sensible au risque humain et surtout d'écrasement des œufs et autres poussins.
Alors Christophe Coïc, la semaine prochaine, le week-end prochain, on va descendre un petit peu, on va se retrouver en Nouvelle-Aquitaine cette fois-ci, parce que là on doit être dans les Pays de Loire, et se retrouver dans la réserve du Teche. On va être, alors je sais que nos amis d'Arcachon disent même pas ça quand on dit qu'on est au cul du bassin, mais enfin bon, en gros c'est à peu près ça, puis c'est une gentille image. Pour en fait votre festival Territoire Sauvage, qui est d'ailleurs aussi un petit peu marié avec Minigoutte.
Oui, avec le festival de Minigoutte. Minigoutte, c'est 35 ans d'existence, c'est dans les Deux-Sèvres, on est dans la grande région de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis nous, l'idée, c'était de faire un petit frère au festival de Minigoutte, qu'on a appelé le festival du territoire sauvage, où on accueille les films et les réalisateurs qui sont passés à Minigoutte, et aussi de la culture, des écrivains, notamment un jeune auteur qui s'appelle Nicolas Thierry, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Se réconcilier avec le vivant ». C'est pas un beau titre, ça?
Bien sûr.
Et donc là, c'est génial. Et donc ça dure 3 jours, du 19 au 22 avril. Et on va accueillir tout ça. Et puis on est toujours sur la dune, parce que la dune du Pilat est pas loin. Et on est dans le bassin d'Arcachon et dans ce fabuleux endroit. Et en plus, c'est le printemps, de la réserve naturelle du Teche.
Alors, www.territoire.org. Vous avez toutes les informations. Donc, c'est la semaine prochaine. Hein. Vous débutez quand, d'ailleurs? Vous débutez le vendredi, samedi?
On débute le 19, vendredi soir, avec Laurent Cocherel, qui est un photographe animalier, et qui a fait un super sujet sur la loutre en Écosse.
Ah, bah oui. Merci beaucoup, Christophe Coïc. Merci à vous.
Donc, merci, Denis. À bientôt.
Et puis, merci pour cette couleur, pour ces dunes, donc, de l'Île-Dieu. Merci à vous d'avoir écouté cette ronde de printemps. À Raphaël Rousseau, à la technique aujourd'hui, à Stéphane Coe, mais à Jérôme Boulet qui a réalisé toute l'émission, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Alors la semaine prochaine, ça va être complètement différent. On va voir ce qu'il y a derrière le label électricité verte et aussi voiture électrique. Vous voyez, ça change totalement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, l'atelier du Mon Petit Loup, vous le savez, ce sera à 19h54 après les petits bateaux, mais ce sera demain.